Un micro à la dérive, à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de son et d'envie d'ailleurs. Bonjour, on continue ce reportage sur les coursiers Uber Eats et le système économique de cette plateforme de commande et de livraison. On est tous habitués à l'image du livreur à vélo avec son sac à dos estampillé Uber Eats, mais depuis quelque temps, on voit des livreurs à scooter. Cette petite révolution dans les transports de repas pose quelques questions. Alors, pourquoi d'abord rester en vélo, alors qu'avec un scooter, on se fatigue beaucoup moins ? Est-ce que la solidarité, l'entraide est toujours présente avec ces nouveaux livreurs à scooter? Et enfin, quelles sont les contraintes liées à l'utilisation de ce mode de transport? Et on va voir, via ce reportage, qu'il est plus compliqué que cela ne paraît quand on choisit de livrer avec un scooter. Et puis, pour vous détendre, je vous offre deux pauses musicales d'un groupe portugais que j'ai découvert cet été. Ce groupe vient de Lisbonne, il s'appelle Capitão Fausto. Et vous allez pouvoir écouter un premier morceau qui s'intitule « Certeza ». Et puis après, en deuxième partie, un morceau qui s'appelle, Bois Memoria. Et enfin, le format de l'émission Un micro à la dérive change. Il passe de 1h à 30 minutes, ce qui permettra de vous offrir plus d'épisodes. Alors pour commencer, on va écouter Ilyes. Ilyes, je l'ai rencontré un peu par hasard, il était un petit peu à l'écart. Il était même à l'écart, franchement, du groupe des livreurs à vélo, donc ça m'intriguait. Depuis, la situation s'est nettement améliorée, vous pourrez le voir devant le McDo avec les autres, mais à l'époque, c'était pas évident. Donc on va écouter Ilyes qui explique son travail de livreur en scooter. Un micro à la dérive reprend la rue, et puis là, je me trouve à côté d'Ilyes qui livre pour Uber. À ceci près qu'il livre pas à vélo, il livre en scooter. Et ce qui m'avait un peu frappé, c'est de voir Ilyes qui était à l'écart du groupe des livreurs à vélo. Et donc, je voulais un peu m'intéresser à ce profil des livreurs à scooter. Ilyes, alors, qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à travailler pour Uber ?
C'est d'abord bonjour et puis
bonjour.
Principalement c'est la liberté de travail, la liberté de n'avoir personne derrière soi, de pouvoir travailler quand j'en ai envie. Si j'ai envie de m'arrêter une semaine, il n'y a personne qui va me réprimander pour ça. Mais si j'ai envie de reprendre, je reprends. Si j'ai pas d'argent, ce sera seulement de ma faute et pas celle de quelqu'un d'autre. Et puis travailler en plein air et puis rencontrer du monde. Enfin, je veux dire, ça réunit tout ce qu'on pourrait vouloir, quoi.
Et là, le choix du scooter ?
Ça, c'est un peu personnel. J'ai toujours été en deux roues, toute ma vie en deux roues.
Motorisé ?
Motorisé, moto, scooter, quad, vélo. Et puis, ça s'est imposé de soi-même. La rapidité pour livrer, la stabilité pour la course qui se trouve sur mon dos. Et puis la fatigue personnelle, que je puisse rentrer le soir et profiter encore de mes enfants, de ma femme et ainsi de suite, quoi.
Quand on commence à travailler pour Uber, quand on commence avec un vélo, bon, on n'a qu'un vélo acheté ou bien récupéré, quand on commence avec un scooter, il y a des règles à respecter. Quelles sont les règles à respecter ?
Vous voulez dire par rapport à la route ou...
Par rapport à... On m'a parlé de licence par exemple.
Par rapport au scooter ?
Oui.
Oui, bien sûr. Oui, on a une licence de transport de moins de 3,5 tonnes à passer. C'est une formation qui prend 105 heures à peu près, qui se déroule sur plusieurs jours. Et là, on vous apprend justement les règles des transports, les règles administratives, les règles physiques par rapport aux gens, par rapport, comme je vous ai dit, la circulation et ainsi de suite, quoi.
Et vous a coûté combien la licence pour pouvoir circuler en scooter et livrer pour Uber ?
Moi, personnellement, j'étais passé par une boîte qui m'avait fait mon KSS à l'époque. Okay. Et qui me l'avait fait pour 750 euros.
Donc quelqu'un qui commence pour Uber, s'il prend son scooter, il faut d'abord qu'il sache qu'il doit investir un peu moins de 800 euros pour pouvoir transporter des repas comme toi.
Tout à fait, ouais. Ouais.
Et c'est là qu'il peut y avoir un malentendu avec les premiers Uber qui étaient en vélo, mmh, et qui comprennent mal, entre guillemets, cette concurrence qui se fait maintenant soit en scooter, et tu m'as dit en off, même en voiture.
Oui, tout à fait. Il y a même des gens qui, par exemple, en temps de pluie, qui n'ont pas envie de prendre leur vélo ou quoi que ce soit, qui se retrouvent en voiture. Bon, ici, sur la région de Lorient, j'en ai pas vu, mais je viens, moi, à l'origine de Mulhouse. Mulhouse, il y a des gens qui venaient en voiture chercher les colis avec le sac, parce qu'il pleuvait, quoi.
Et tu m'expliquais aussi auparavant, enfin en off, qu'à Mulhouse, il y avait autant de livreurs à vélo qu'en scooter, voire en voiture, et que tout le monde cohabitait pacifiquement, il n'y avait pas trop de concurrence.
Ah oui, c'était même plutôt convivial. C'est qu'on avait un coin où on se retrouvait justement pour pouvoir ne pas être collé justement à un magasin en particulier pour avoir toutes les commandes, mais on était tous regroupés au même endroit et pouvoir se dispatcher comme ça. Et c'était convivial, on rigolait, on se donnait les bons plans, les bonnes affaires, que ce soit vêtements ou hors Uber, quoi. Je dirais, c'était super sympathique et arriver ici, c'est complètement différent en fait.
Comment tu expliques que ce soit différent à Lorient ?
Je sais pas, peut-être la méfiance, je ne saurais l'expliquer. Sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure en off, je suis arrivé au bout de même pas une semaine, on m'a signalé au support Uber, ouais, par rapport au scooter, alors qu'on aurait pu très bien venir me voir, j'aurais même montré les papiers qui se trouvent toujours sur moi, je veux dire, et il n'y aurait eu aucun problème. Donc je sais pas, de la méfiance, de la jalousie, je ne sais pas.
Ce qui manque peut-être, c'est la transparence, c'est-à-dire que la personne qui est en scooter affiche sur son pare-brise, sur la carrosserie, un papier officiel qui montre bien qu'il a la licence dont parlent tant les collègues qui sont en vélo.
Oui, mais ça, à la limite, pour les particuliers. Mais pour les particuliers ou autres, mais entre nous, ça ne devrait pas exister. Ouais. Je veux dire, on n'est pas énormément ici, comme par exemple à Strasbourg ou à Paris, où c'est des cinquantaines, des centaines de livreurs. Ici, on est à peu près une vingtaine. Il n'y a pas tellement de concurrence que ça. Il y a assez de restaurants pour nourrir tout le monde. On fait tous notre chiffre. Malgré qu'il y ait cette jalousie, on fait quand même notre chiffre, quoi.
Est-ce qu'on peut parler de cette activité comme un métier ?
Ah oui, tout à fait, oui, c'est un métier. Il y a un art derrière, enfin, entre guillemets. Je veux dire, il y a la politesse envers les gens. Il y a comment être reçu par les commerçants. Il y a la communication en off, c'est-à-dire par exemple quand moi je suis posé ici, il y a des gens qui viennent me voir, qui me demandent qu'est-ce que c'est Uber, quel est mon métier, comment ça se passe, et je dois leur expliquer sans faute entre guillemets, parce que ça va dépendre de soit ils vont devenir de nouveaux clients, soit ça va être de futurs collègues. Alors il y a une petite pression, mais oui, c'est un métier pour moi, en tout cas.
Alors, la question n'est pas innocente, parce que tes collègues, quand je parle de ça comme un métier, me confirment, oui, c'est un métier. Et quand je leur demande, dans un avenir proche, enfin, dans un avenir à moyen terme, est-ce que vous voulez continuer ? Non, on va plutôt se tourner vers soit un garage de mécanique, vélo, changer de boulot. Mais ils ne se voient pas pérenniser l'activité comme un métier classique. Tu penses que c'est lié à la pénibilité du travail à vélo, alors que toi, tu es en scooter, ou bien... Comment tu expliques ça,
ouais. Principalement, ouais. Moi, à mon avis, oui, c'est déjà ça. C'est par rapport au vélo. Le soir, quand ils rentrent, ils sont crevés, même s'ils adorent le vélo. Hein. Faut pas se mentir. 8h, 9h d'affilée dans une journée à livrer, descendre, monter des escaliers et ainsi de suite, ça userait n'importe qui, je veux dire. Et puis, il y a toujours cette, entre guillemets, une sorte de on dit que livreur, c'est pas un métier d'avenir, ni quoi que ce soit. Alors qu'on peut très bien voir des sociétés de livraison qui marchent très très bien, qui grossissent. Enfin, je vais vous donner un gros exemple, mais TNT, je veux dire, les grosses boîtes comme ça, ont commencé par des petits boulots comme cela, je veux dire. Après, il faut voir loin. Et la plupart, c'est des étudiants, ils sont jeunes aussi. Donc, faut pas leur en vouloir, et ils ont raison de voir plus haut. Mais après, oui, il y a un avenir dans ce métier-là si on y met du sien.
Christelle est demandée en caisse 2. Christelle ! Bon, tu te grouilles, ça urge. Il y a un micro à la dérive qui commence. Christelle !
toi, Iliès, tu es auto-entrepreneur ou bien tu demanderais être salarié si l'occasion se présentait?
Non, je souhaiterais rester en auto-entrepreneur, par contre, mais qu'on revoie les termes d'auto-entrepreneur au niveau de la loi. Ouais. Parce qu'on est... On est sanglé en fait de chaque côté. On peut même pas avoir une expansion par rapport à ce travail-là. C'est-à-dire si j'ai envie de travailler avec d'autres boîtes, je peux le faire, mais ça s'arrête à un partenariat. On peut pas faire faire une flotte par exemple. J'ai envie de prendre plusieurs personnes avec moi. Je vais changer de statut. Mmh. Alors, oui, je trouve qu'on est sanglé par rapport à ça, mais
Tu voudrais, en fait, tu voudrais créer ta propre boîte Uber.
Oui, enfin, ma propre boîte, un sous-traitant de Uber, mais un sous-traitant qui pèse, pas seulement en personnel, mais réunir tous mes collègues, par exemple, faire une flotte de scooters et y aller, mmh. et établir des règles strictes, ce qui éviterait tous ces problèmes-là. D'accord. Et avoir au moins, on aurait quelqu'un à qui remonter les infos. Quand il pleut, on déclencherait une vraie prime, et ainsi de suite. Je veux dire, s'il y a un problème, il y aurait juste à appeler, pas comme...
D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que vous, vous avez un smartphone, vous êtes tous équipés d'un smartphone avec l'application Uber, et vous n'avez pas d'intermède, de personne physique à qui vous pouvez expliquer « Ouais, je comprends pas, mon collègue était là après moi, il a eu la commande avant moi, ou bien... » Enfin, vous ne pouvez pas vous plaindre, et vous êtes face à un algorithme qui, c'est un peu désincarné, et là, tu aimerais bien plutôt qu'il y ait une sorte d'entreprise collective qui fait qu'il y a une personne qui représenterait le collectif et si jamais il y a un problème, qu'on puisse parler ensemble et faire remonter des doléances, bien des choses comme ça.
Une méthode toute simple. Ouais. Je veux dire, je veux rien d'extraordinaire. Une méthode toute simple. Avoir un référent qui a son mot à dire au niveau de chez Uber, mais qui travaille avec nous, tout simplement. Qui voit les conditions, qui les connaît.
Et là, c'est pas possible. Hein.
Je ne sais pas. J'ai proposé j'ai proposé ce cas-là à Uber. Je n'ai jamais eu de retour.
Quand tu dis que tu l'as proposé, c'est par mail, c'est par rencontre?
Alors, j'ai envoyé un email, j'en ai parlé en physique quand je suis allé chercher un nouveau sac, mais il n'y a jamais eu de retour.
Et on parlait un peu des clients, on était un peu étonné de voir des clients qui parfois commandaient une simple glace, un simple dessert, et on se posait la question du réflexe qu'avaient les consommateurs à passer par Uber, alors que parfois les restaurants avaient leur propre livreur. Comment tu expliques que les clients pensent à Uber, quitte à payer 5 euros de plus leur repas?
En fait, c'est tout simple, c'est comme on se le disait avant. La plupart des restaurants mettent un plafond de 15 euros pour la livraison personnelle, de leur propre livreur, alors que Uber, vous pouvez descendre à un plafond beaucoup plus bas. Mmh. Et quitte à rajouter 5 euros, mais voilà, vous allez payer 7, 8 euros et vous allez avoir votre glace livrée à la maison. Alors que chez un restaurant, il faut au minimum 15 euros, donc un menu et tout ce qui suit. Et puis voilà.
Alors notre salarié de Eat Sushi m'a expliqué en off que finalement d'ouvrir l'application Uber sur sa tablette, l'ordinateur, le téléphone, fait que on voit directement le restaurant et puis c'est plus simple. Et qu'elle-même, elle qui est salariée chez Eat Sushi, se surprend parfois à commander par Uber, ce qu'elle pourrait avoir dans le restaurant où elle travaille, ou bien en faisant un pas à Carrefour à côté. C'est quand même surprenant. Hein.
Oui, mais c'est rentré dans les mœurs, en fait. C'est, depuis l'époque de, par exemple, Pizza Hut et de leurs livreurs, c'est rentré dans les mœurs comme quoi on pouvait se faire livrer. Et puis maintenant, je veux dire, c'est tellement large comme vous avez pratiquement tous les restaurants qui le font. Il manque plus que les Carrefour City, et encore, ils s'y mettent. Hein. Par exemple, Carrefour Drive... je ne sais plus comment on les appelle.
Carrefour Drive, ouais.
Voilà. Tout le monde s'y met, donc c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, Uber, Deliveroo, Just Eat, tout ça, c'est rentré vraiment dans les mœurs.
Et il n'y a pas un profil unique de client, en fait, il y a tous les profils possibles. Hein.
Absolument pas de profil unique, je suis tombé sur tout. De la mamie au petit jeune, même au gamin qui a piqué la carte bancaire pour commander. Enfin, je veux dire, c'est des situations atypiques, mais je suis vraiment tombé sur tout, quoi.
Ouais. Tu parlais même de commerçants, de restaurateurs, qui après le travail...
Oui, tout à fait. Oui, c'est arrivé. Alors, je livre pour le commerçant pendant la journée, et le soir, je vois son restaurant fermé, je reçois une commande, je vais la chercher, je livre, et je vois que c'est le commerçant que j'ai livré toute la journée qui voulait se faire livrer.
Mais ne me dis pas qu'il commande de son propre restaurant.
Non, ça c'est pas encore arrivé. Mais quoi que si, McDo c'est arrivé.
Ah oui?
Oui, McDo, oui, c'est arrivé. McDonald's de Carriado, j'ai une employée de là-bas qui a commandé après son service et je l'ai livré chez elle. Oui, c'est arrivé qu'une seule fois, mais le reste, ça risque pas d'arriver.
Et toi-même, tu te verrais prêt à commander chez Uber ou bien finalement non, on vit dans un monde où il y a des micro-ondes, je peux m'acheter à manger de la journée et puis stocker ça. Enfin, manger, c'est pas une difficulté quand même aujourd'hui.
Non.
Et tu aurais ce réflexe Uber ou bien non, finalement, je suis prêt à payer 5 euros comme mes clients finalement.
C'est paradoxal, hein,
ouais.
Mais non, je n'aurais pas ce réflexe parce que je l'ai jamais adopté en fait. Je suis assez économe comme garçon, donc tout ce que je peux économiser, je le fais. Et donc, j'irai faire mes courses dans la journée ou pour le mois, pour la semaine, enfin. Mais je ne commanderai pas en Uber, quoi.
Est-ce que tu as des clients fidèles à toi, c'est-à-dire qui t'appellent particulièrement? Est-ce qu'on peut choisir d'abord son livreur? Et est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ces relations particulières que tu peux avoir avec des clients que tu revois souvent?
Pas particulièrement, parce que j'essaie de rester amical mais distant pour pas mélanger le travail et autre chose, ou pour pas que ça prenne des proportions autres, parce qu'on sait jamais sur qui on tombe, hein, que ce soit comme livreur ou comme client ou comme personne. Du coup, j'essaie de garder cette distance-là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des clients, à force de les livrer, on sympathise. Alors, comment ça s'est passé la semaine? Ça y est, rentrée du boulot, enfin. Enfin, un peu. On essaye de rigoler, mais on est en gardant ces distances quand même.
Tu travailles depuis combien de temps pour Uber?
Ça va faire 5 mois maintenant.
Aussi bien à Mulhouse qu'à Lorient, hein.
Oui, tout à fait. Et j'avais commencé en fait avec Deliveroo à l'origine.
À Mulhouse?
Oui. C'est ça. Et à Mulhouse, en fait, paradoxalement, ce qui marchait le mieux, c'était Deliveroo. Et il y a un moment où ça a basculé, c'était Just Eat. Et j'ai basculé avec.
D'accord.
Donc voilà.
Et aujourd'hui, que tu es à Lorient, tu arrives à dégager un SMIC par rapport au volume horaire que tu donnes chaque semaine?
Comparé à Mulhouse?
Non, on va dire non, à Lorient. Enfin,
à Lorient.
Ou à la limite, on peut comparer.
Largement. Largement.
Quando eu falar e me disse... sais que já não toque paz. Não consegui sem pensar no teu perdão. Eu escolho encher os dias com ruído e confusão.
Si on parle maintenant du volume horaire et du revenu à peu près que toi tu en tires, sachant que c'est très variable selon les semaines et puis les mois.
Oui, tout à fait. C'est jamais déjà les mêmes revenus toutes les semaines. Donc, mais après, les horaires restent les mêmes. Moi, par exemple, comme je vous ai dit avant, j'arrive ici à 10h. Je repars entre minuit et 1h du matin. Mais c'est du non-stop. Je veux dire, j'ai bloqué tout le reste de ma vie pour ça. Mais c'est justement pour pouvoir en tirer un bénéfice. Sinon, ça vaut pas le coup. Alors, autant aller travailler en usine, je veux dire.
Sans donner, bonne comparaison. Si tu avais à comparer le revenu que tu pourrais avoir en travaillant à l'usine et celui que tu peux avoir en livrant pour Uber, tu estimes que c'est plus bénéfique pour toi ?
Sans effort, autant rester à l'usine. Au moins, il y a une certaine sécurité, une certaine stabilité. Même au niveau des contrats, c'est stable. Maintenant, si vous donnez du mal, vraiment, et vous faites des heures, parce que c'est plus de 8 heures sur un vélo, plus de 8 heures sur un scooter d'affilée, si vous donnez du mal, ça vaut largement plus le coup que de travailler en usine, même financièrement parlant, quoi.
Ouais. Ah, c'est vrai que toi, tu avais ton scooter déjà à l'origine, tu n'avais pas à l'acheter. Hein.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il faut rappeler que les livreurs qui travaillent pour Uber ont à leur charge le matériel, donc ça peut être un scooter, ça peut être un vélo, voire même une voiture, et que si ton scooter a un problème mécanique, c'est toi qui payes, c'est pas Uber qui va payer tes réparations.
Oui.
Il y a une prise en charge parfois, si jamais il pleut, si jamais il y a des difficultés ou tu tombes malade. Comment ça se passe, ta relation avec Uber, pour tout ce qui est problème de santé, problème de...
Non, il n'y a pas vraiment de prise en charge, entre guillemets, du quotidien. Il y a une assurance derrière, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, par rapport au revenu, mais elle est minime. Après, en tant qu'auto-entrepreneur, on a aussi une assurance à part, on a des choses à part qu'on met pour se protéger, parce que c'est normal, chose que les petits jeunes ne comprennent pas. Ils arrivent ici, les bras ballants, ils ne comprennent pas que c'est un métier, que c'est que derrière, s'il y a un accident, ils n'ont plus rien. Ils sont couverts par rien du tout, en fait, s'ils ne se protègent pas eux-mêmes, quoi.
Et quand on parle de protection, on parle par exemple du code de la route, hein, tu te sens parfois en danger quand tu prends les voies par rapport aux voitures, par rapport aux autres moyens de locomotion ?
Bien sûr, bien sûr, c'est que ça soit en vélo, ou que ça soit en scooter, ou que ça soit en n'importe quel véhicule, à partir du moment où vous prenez la route, c'est toujours dangereux. Vous pouvez tomber sur je vais vous donner des exemples, par exemple, un papy qui roule très doucement et qui va freiner au dernier moment, qui va voir le danger au dernier moment. Et vous êtes sur le côté, vous êtes juste derrière, collé, parce que vous êtes pressé de faire votre livraison. Comme vous pouvez tomber sur le petit jeune qui vient de sortir de soirée, alcoolisé, ou... Vous pouvez avoir toutes les situations, bien sûr que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux, il n'y a rien à mettre de côté. C'est de la vie des gens qu'on parle, et pas d'un amusement.
Un micro à la dérive est aujourd'hui à la rencontre d'un commerçant qui s'appelle Yves Zouraman, qui tient un commerce de sushis. qui s'intitule, enfin, qui se nomme Best Sushi, qui se trouve sur le boulevard Normandie, en bas du boulevard Normandie plus exactement. Et c'est l'un des rares commerçants qui a accepté de pouvoir s'entretenir avec moi à propos de sa relation avec Uber. Bonjour Yves-Zour Aman.
Bonjour, bonjour à tous ceux qui regardent la télé ou radio.
Ah, c'est la radio.
Oh, ouais, c'est la radio, ok. Bon, bah...
Alors, ton restaurant a ouvert il y a à peu près 3 mois. Enfin, 3 mois d'abord à la Leinster, puis depuis deux mois
au boulevard Normandie. C'est pas la Leinster, à Kervenenek.
À Kervenenek, d'accord.
Oui.
Et comment s'est passé le contact avec Uber? C'est eux qui t'ont contacté ou bien c'est toi qui as demandé à être en relation avec eux?
En fait, moi, je demande mon chef. Première fois, j'étais pas là. J'étais en vacances. Du coup, comment ils ont contacté ou lui, il a trouvé, je demande mon chef. Il a cherché, c'est-à-dire lui, il a contacté avec.
Donc, c'est lui qui a contacté
avec
Uber.
Avec eux, oui.
Alors, comment ça se passe vous contactez Uber, Uber arrive, il vient vous voir.
Ouais, il a contacté par téléphone et après, partie de l'heure, une personne qui arrive et prend tous les cartes, menus, l'image du sushi, comme ça. Et après, il a installé sur une tablette, oui. Et bah, il a installé le système... Software comme ça.
D'accord. Avec, mais il y avait un coût économique ou bien c'était gratuit au départ, la tablette?
Au départ ils ont pris comme frais 6 euros.
6 euros?
Non, 600. Oui, 600.
600 euros?
Oui.
Pour installer la tablette.
Tablette et. Mais. Partie de cartes, tout machin, parce qu'ils ont, ouais, ils ont fait un software.
Un logiciel. Oui.
Oui. Bah, pour ça, frais 600
d'accord.
euros.
Alors, dans votre système à vous, vous avez deux mobilettes, oui. Deux scooters,
oui.
Et vous livrez à partir de 15 euros.
Oui.
Donc, si moi j'appelle pour avoir des sushis pour 10 euros, vous dites non, ça coûte trop cher, c'est pas la peine, il faut commander pour 15 euros.
Oui.
Par contre, un client Uber oui. peut commander chez vous pour avoir un produit de 5, 6 euros.
Bah, depuis comment c'est normalement, les clients partis d'Uber Eats, Uber Eats, ils ont commandé aussi plus 15 euros.
Oui,
plus. Normalement, ouais, moyenne, c'est comme ça. Moi, jamais eu, depuis 2 mois, je travaille ici, mais jamais eu comme ça une commande, moi, à 15 euros.
D'accord, oui.
C'est pour ça, et en plus, Uber Eats, envoyait livreur, c'est-à-dire, eux qui cherchent la commande. Du coup, si c'est 10 euros, 5 euros, ou, pour nous, c'est pas un problème parce que
oui
c'est normal.
Oui.
Ouais, c'est pas nous qui fait livraison.
Oui, c'est pas vous qui faites la livraison, oui. C'est les coursiers qui font.
Ouais.
Et alors, quand il y a une commande qui est faite, imaginons qu'il y a pour 100 euros de commande.
Oui.
Uber prend une commission, Uber Eats prend une commission, elle est de l'ordre de 30% à peu près.
Oui, à peu près comme ça. Oui,
30%. Et pour vous, est-ce que c'est un bon calcul économique? Est-ce que ça vaut le coup vraiment de passer par Uber Eats, sachant que à chaque fois qu'un client passe par Uber Eats, ça vous coûte 30% du prix du menu. Comment vous faites? Vous préférez garder le prix de votre menu,
oui.
Voilà, ça, je ne bouge pas, et tant pis pour le client, il va payer 30% plus cher. Ouais. Ou alors, il y a tellement de concurrence, il y a Eats Sushi, il y a Sushi Machin, Sushi Bidule, donc on va baisser nos propres prix pour être plus concurrentiel.
En fait, nous, on vient d'ouvrir,
ouais.
Et un petit restaurant, petite entreprise, et vous voyez, il y a dans cette ville, il y a plusieurs sushis. Mmh. Il y a
compétition.
Et pour, on n'a pas pensé encore, parce que pour, par exemple, on est nouveau, du coup, on a choisi Uber Eats, Just Eat. À côté, il y a notre téléphone, on va emporter tout machin. Mais on peut faire. Et que les clients viennent direct chez nous et par exemple emporter ou livrer aussi, on fait la commande, ça c'est bien pour nous Parce que...
Vous préférez que le client vienne directement chez vous plutôt que passer par Uber Eats, hein.
Oui, c'est pas Uber Eats. Pour l'instant, ou pour le moment, on n'a pas le choix. Il y a compétition au commerce. Chaque restaurant, la plupart des restaurants qui utilisent c'est Uber Eats, Just Eat. Du coup, on n'a pas le choix, mais on peut faire que les clients qui viennent direct chez nous.
D'accord.
Parce qu'on perd notre...
Oui. Vous baissez vos prix pour pouvoir être dans les prix corrects, hein.
Ouais.
D'accord.
Et c'est bien, on garde le même prix parce que c'est compétition et on ne peut pas monter sur Uber Eats ou Just Eat le prix et la carte, mais...
Pour bien comprendre comment vous-même, en tant que commerçant, vous regardez le prix de vos menus que paierait un client et le prix du menu proposé par Eat Sushi ou bien par Sushi Bidule pour savoir si vous êtes bien dans la même fourchette de prix. Vous faites attention à vos propres prix pour ne pas être trop décalé, trop cher.
Oui, on a pensé, mais il y a une chose qui est qualité aussi, quantité, qualité. Mais moi, je trouve... chez nous, on garde bien qualité, quantité bien et en fait, on fait frais, les produits sont très frais, les poissons, toujours on fait attention, toutes les choses qui sont bien. Du coup, il y a une chose, moi je trouve maintenant il y a beaucoup d'entreprises et compétitions. Si on mais le prix
trop élevé,
ça aussi, ça ne va pas marcher. Si on ne peut pas aussi baisser aussi.
Oui, oui.
C'est la moyenne, le prix. Et ça se passe, mais ce n'est pas le choix, quoi.
D'accord.
Ouais.
Et aujourd'hui, au bout de 2 mois d'exploitation, quelle est la part des clients qui commandent via Uber Eats et ceux qui commandent directement?
Moitié, 50% viennent direct et 50% sur Just Eat ou Uber Eats. Moi, je pense que les gens, des fois, préfèrent le site internet et quelqu'un qui préfère bien d'être direct. Moi, à partir de mon entreprise, moi, je préfère que si les clients appellent direct ou vous venez à emporter. Ça, c'est bien pour l'entreprise et c'est bien pour tous, je pense.
Oui, c'est pour vous.
Ouais. Et à la fois, je m'excuse s'il y a quelque chose parle mal parce qu'on est étranger, bientôt Bangladesh. Et merci beaucoup pour tous ceux qui écoutent la radio.
On va conclure cette émission par une bonne nouvelle. Ilyes, le livreur en scooter, a été admis par ses confrères cyclistes. J'en profite pour remercier les patrons de Best Sushi, le restaurant de livraison de sushi qui est situé en bas du boulevard de Normandie. Ils nous ont bien expliqué les avantages et inconvénients de cette plateforme numérique. Alors pour résumer, le commerçant paye 600 € à Uber Eats le droit de disposer d'une part d'une tablette permettant d'accepter les commandes passées par Uber Eats et d'autre part de bénéficier de la publicité qu'offre ce partenaire aujourd'hui très présent dans la tête des consommateurs. Mais pour autant, ces commerçants dans l'ensemble préféraient s'en passer et gagner évidemment en chiffre d'affaires ce que Uber Eats leur prélève, c'est-à-dire environ 30% du prix de vente d'un repas. Le prochain et dernier reportage sera consacré d'une part à Samuel, qui tient la pizzeria Pianeta Pizza à Lanester et qui a préféré se passer des services d'Uber Eats. Il nous expliquera pourquoi. Et d'autre part, vous pourrez aussi écouter une interview que j'ai pu mener avec une maître de conférence de l'université de Rennes 2 qui nous expliquera en quoi l'économie dite collaborative bouleverse profondément nos représentations du monde du travail. Pour finir, vous pouvez me réécouter sur le site de Radio Balise en cliquant sur Grille des programmes, l'émission Un micro à la dérive. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs animateurs. Vous êtes curieux ? Vous avez le sens du contact? Vous voulez traiter des sujets de société? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23, 06 521 585 23 ou par mail à micro@laposte.net. Merci de rester sur Radio Balise.